Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine, je t'accompagne dans ta vie de freelance en traitant tous les grands sujets importants de ton activité et de ton mode de vie, avec l'aide de mes chers invités. Et cette semaine, on va tacler un sujet bien, bien épineux qui donne du fil à retordre à beaucoup d'entre vous ou beaucoup d'entre les freelances de notre bel écosystème. Et ce sujet, c'est l'argent. C'est un vaste sujet, n'est-ce pas? Je vois tellement de freelances qui ont un rapport à l'argent qui les bloque dans le développement de leur activité. Comme s'ils en avaient peur. Ils négligent leur propre valeur en mettant des prix excessivement bas. Ils repoussent toujours plus loin le moment fatidique où il faut en parler avec leurs clients. Ils n'arrivent pas à le gérer, ils n'osent pas investir, ni dans leur activité, ni sur eux-mêmes. Bref, l'argent est une vraie chaîne à leurs pieds. Et c'est pourquoi, cette semaine, j'ai invité Delphine Pinon sur le podcast pour qu'on puisse déconstruire ensemble ce bon gros sujet. Delphine est freelance en content marketing, mais elle est surtout la créatrice du podcast Budget Chéri, un podcast qui explore tous les sujets liés à l'argent et aux finances personnelles, un sujet qui la passionne, et c'est un vrai plaisir d'en parler avec elle d'ailleurs. Et du coup, dans cet épisode ensemble, on va explorer l'argent sous toutes ses facettes. Comment le générer, comment le gérer, et enfin, comment le faire fructifier. Je vous invite dès maintenant à attraper votre carnet et votre stylo favori, parce que c'est un bien bel épisode qui vous attend. Et nous, on se retrouve à la fin. Belle écoute.
Bienvenue sur le podcast, Delphine.
Merci de m'avoir accueilli.
Je suis très content de réussir à t'avoir pendant un petit passage à Paris pour voir des gens, boire des cafés et du coup faire ce podcast. Donc, merci d'être présente. Et je suis très content de le faire aussi parce que le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, Je pense que c'est un bon sujet épineux pour beaucoup de freelance, à savoir gérer son argent, parler d'argent, la relation à l'argent. Enfin, moi, je pense qu'on va le tordre un peu dans tous les sens, parce que c'est un truc qui te passionne. Et du coup, je suis trop content qu'on puisse en parler. Mais pour donner un peu de contexte aux gens quand même, première question rituelle, j'imagine que tu t'y attendais. Comment et pourquoi t'es devenue freelance indépendante en fonction du mot auquel tu te réfères?
C'est un heureux hasard. J'ai pas choisi particulièrement d'être freelance indépendante. Donc, en tout cas, j'ai pas choisi ce statut. Il se trouve que j'étais à un moment de ma vie, donc c'était il y a 2 ans maintenant, c'était un moment de ma vie où j'avais envie de renouer avec l'entrepreneuriat. Et au cours d'un déjeuner avec mon ami Florian Lamache, qui est un des créateurs du collectif Tech Alchemist. Donc on va déjeuner ensemble, on se connaissait depuis un petit moment. Et puis je lui dis, j'ai envie de réentreprendre, je sais pas trop par quel bout prendre le truc. Et lui me dit, dans le collectif, on a aussi cette envie-là. Parce que on touche un peu le plafond de verre, on vend notre temps, on est un peu full staffé, on vend notre temps, et puis on se rend compte que va falloir passer à l'étape d'après, quoi. Et il avait identifié l'étape d'après comme étant, ce serait pas mal que on consacre un peu de notre temps à développer des produits pour nous, ouais, qu'on commercialiserait et dont on pourrait générer un revenu passif, un revenu récurrent. En gros, continuer à faire de la presta, mais monter
ses propres projets à côté. Quoi.
Ouais, exactement. Et donc du coup, voilà, ça se rencontrait et j'ai décidé de rejoindre le collectif pour cette partie-là et pour monter des projets ensemble. Et du coup, voilà, j'ai pris un statut de freelance. Et donc j'ai fait principalement mes missions au sein du collectif. Okay. Pendant un an et demi, voilà.
Donc à ce moment-là, tu passais plutôt sur les missions en interne de « on crée des projets, on développe des choses », et pas forcément directement avec des clients, quoi.
Exactement. J'ai bossé un peu avec quelques clients du collectif, mais j'ai principalement bossé sur les projets qu'on avait,
ouais,
et puis aussi un peu pour le collectif, parce que j'ai fait quelques missions pour essayer de... Le collectif Alchemist a toujours été un peu confidentiel. C'est des gens très discrets, des techs qui ont pas envie de se mettre en avant, genre qui bossent bien mais qui ont pas envie trop de faire parler d'eux, quoi.
Dont Sébastien qui est passé sur le podcast.
Exactement.
Qui du coup fait la
qui est l'antithèse de... mais il y a un an et demi il n'était pas du tout dans cette démarche là mais effectivement maintenant on essaie de faire le travail inverse, effectivement de faire reconnaître et connaître et reconnaître notre savoir-faire et l'expertise. Mais c'était pas du tout le cas il y a un moment, donc j'ai contribué à essayer de rendre Alchemist un peu plus visible.
Cool. Bah, d'ailleurs, tu l'as très bien fait sur le podcast d'Alexis, et pour ceux qui écoutent et que ça intéresse, je mettrai le lien. Parce que du coup, tu as bien creusé dans cet épisode sur comment ça fonctionne, l'envers du décor, pour justement dépasser ce côté un peu insider et confidentiel.
Ouais.
C'est cool. Et du coup, aujourd'hui, tu as bougé un petit peu encore dans ton activité.
Ouais.
Tu t'es pris de passion pour le sujet de l'argent suite à une lecture que je sais qu'on a en commun, dont on parlera sûrement à un moment dans l'épisode. Et du coup, t'as créé un podcast qui s'appelle Budget Chéri, du coup, des contenus qui va autour. Et tu spécialises ton activité aujourd'hui sur accompagner des fintechs, notamment sur la partie contenu.
Ouais.
Enfin, fintech, tout ce qui est dans autour de la finance et de l'argent.
Voilà, finance, banque, assurance aussi un peu.
Okay.
Je me rends compte, si je regarde un peu mon parcours avec du recul, qu'il y a toujours un moment donné où je me lasse et j'ai envie de passer à autre chose. Et là, il y avait un mélange de lassitude, mais aussi cette envie de mener à bien ce projet qui a démarré comme un side project et qui finalement, aujourd'hui, prend beaucoup, beaucoup de mon temps. Parce que... ça prend aussi beaucoup de mon temps parce que j'ai retrouvé une motivation incroyable à bosser sur des sujets marketing. Faut voir que dans le collectif, j'ai un peu plus bossé sur des sujets de gestion de projet et de produits parce que c'était un choix, clairement. Et ça me fait énormément plaisir aujourd'hui de repartir sur des sujets un peu marketing avec mes clients. Et c'est aussi ce que je fais avec ton projet,
podcast, à toi.
Donc voilà, il se trouve que j'ai une passion C'est un peu bizarre, mais pour les sujets drôle, de gestion hein. De...
Ouais, c'est drôle, de, cette phrase, j'ai une passion pour la gestion de l'argent. Ouais. C'est vrai que c'est une phrase drôle, mais je trouve que c'est une vérité, en fait, tu l'incarnes vraiment, et quand on en parle, comme le coup de téléphone qu'on a eu pour préparer cet épisode, ouais. T'étais lancé, quoi.
Ouais, carrément. Non, en fait, ça part d'une frustration, ça part de sentiment que je pourrais faire mieux. Oui, donc je gagne correctement ma vie. Oui, j'arrive à mettre un peu d'argent de côté. Donc, a priori, les feux sont ouverts. Je suis jamais à découvert, si ce n'est que des fois j'oublie un peu de transférer de l'argent de mes comptes d'un compte à un autre. Mais c'est pas un vrai découvert. Et donc, c'est OK, quoi. Mais moi, j'ai pas le sentiment que c'est OK. J'ai le sentiment que ça pourrait être vraiment mieux, quoi. Que je pourrais épargner plus, je fais trop rien de mon épargne, en fait. Il dort un peu sur une assurance vie, sur des fonds de garantie, un peu sur un livret A, pas terrible, quoi. Et c'est vraiment cette frustration de me dire, c'est pas terrible. Ça se nourrit, ça grandit, et au bout d'un moment, je fais, mais attends, arrête, t'es pas du genre à... Quand tu mets le doigt sur une insatisfaction, une frustration, t'es vraiment pas du tout du genre à
laisser passer ça,
à la laisser quoi s'installer. Et donc je me dis vas-y cherche des solutions. J'en trouve pas en tout cas en tapant rapidement des mots clés sur Google en français. Et puis au bout d'un moment je me dis ok. Il y a une littérature foisonnante aux États-Unis sur les sujets d'argent, ouais. Et surtout sur les sujets du béaba de gérer son argent au quotidien. Mm-hmm. Parce qu'en France, on trouve du contenu assez foisonnant sur la partie investissement, placement, comment faire fructifier son argent avec du placement le plus basique à celui le plus élaboré. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. Ouais. Moi, je voulais
gérer l'argent.
Comment je gère, quoi? Combien je dois mettre de côté tous les mois? Comment je fais pour vraiment mettre cet argent de côté et pas repiocher dedans tous les 4 matins? Comment je fais pour suivre mes dépenses, pour m'astreindre à... Quelle discipline je dois avoir pour m'astreindre à pas surdépenser? Sur quoi je veux pas surdépenser? Comment je fais pour suivre ça, etc.? Les outils qu'on nous propose, qui sont à notre disposition, ne me convenaient pas. Il n'y avait aucune littérature sur ce sujet-là. Donc, je pars m'informer. Pas littéralement aux États-Unis m'informer.
En tout cas, dans ta tête et dans tes lectures.
Ouais, exactement. Et ça a changé beaucoup de choses. J'ai trouvé ce que je cherchais, quoi.
Ouais.
J'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé des méthodes qui m'ont plu. J'ai trouvé des méthodes que j'ai mis en place, que j'ai adapté, que j'ai perfectionné, que j'ai expérimenté pendant un certain temps. Et ça a été un vrai game changer pour moi.
Je te rejoins totalement, notamment la lecture à laquelle je pense. Et je pense qu'on reviendra sur ces apprentissages de ce bouquin qui est Rich Dad, Poor Dad.
Ouais. Père riche, père pauvre.
Père riche, père pauvre. Désolé, c'est des billets anglophones qui te ressortent. Mais j'ai adoré ce bouquin et j'ai appris, ça m'a donné des claques, quoi. Donc, je reviendrai un peu sur ce que j'en retiens après. J'aime beaucoup, t'as dit le mot faire fructifier son argent.
Ouais.
Moi, il y a une phrase que j'adore autour de l'argent dont on a discuté au téléphone aussi, c'est le sujet de l'argent, le maîtriser, ça veut dire savoir générer de l'argent, gérer son argent et faire fructifier son argent.
Ouais.
J'aimerais qu'on essaie de traiter ces trois parties du coup dans l'épisode. Parce que je pense que beaucoup trop de freelances ont du mal déjà avec la première brique, c'est-à-dire générer de l'argent, savoir vendre ses services, trouver ses clients, etc. Ouais. La question que j'ai envie de te poser, c'est comme toi, c'est un sujet dont tu parles tous les jours et qui t'intéresse et tu as fait plein de lectures et tu te plonges loin dedans. À quel point est-ce que tu penses que notre rapport à l'argent, c'est-à-dire les pensées qu'on a sur l'argent, comment on le voit, ça a un impact sur notre capacité à générer de l'argent?
Alors, c'est un sujet vaste et intéressant. Je ne suis pas sociologue, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus et d'ailleurs, je suis en préparation d'un épisode spécifique sur la relation à l'argent avec un spécialiste de ce sujet-là. Clairement, c'est un sujet qu'on pourrait presque aborder en thérapie et qu'on n'aborde jamais, en fait. Mais notre relation à l'argent dit beaucoup de choses de nous.
Ouais.
Et souvent, il faut vraiment aller chercher dans les racines de notre héritage familial et de notre enfance sur notre relation à l'argent. Et il y a cette, c'est pas un adage, mais c'est une façon de penser qu'on retrouve souvent dans les bouquins d'argent, c'est se dire que quand on est à la bonne place, dans la bonne énergie, qu'on fait le bon métier, qu'on met son talent au service des bonnes choses, on va naturellement attirer l'argent à nous. Et à l'inverse, on peut aussi avoir de grosses difficultés à attirer l'argent à nous. Mmh. Bon, c'est pas si simple que ça, ça veut pas dire, il faut mettre les conditions en place pour que ça vienne, mais je prends par exemple quelqu'un qui aura un talent vraiment particulier à travailler le cuir, qui est très méticuleux, qui du coup s'installerait en cordonnerie par exemple, et qui devient le meilleur cordonnier de son quartier, super commerçant, très content. Naturellement, il aurait un succès dans son entreprise locale, parce qu'il serait à la bonne place, il utiliserait son talent à la bonne façon, etc. Donc c'est un peu cette idée-là. Ça, c'est un premier truc que j'aime bien pour expliquer la relation à l'argent, c'est trouver en fait notre place et la meilleure façon d'utiliser notre talent.
Ce que je trouve intéressant dans ça, c'est effectivement, j'ai l'impression que beaucoup de freelances, ils ont la peur de vendre, elle vient de la peur de pas avoir assez de choses à apporter. C'est-à-dire, j'entends souvent la phrase de j'ai peur de voler leur argent, ou ce sentiment de prendre quelque chose, de enlever quelque chose à son client. Et je pense que ça vient vraiment du fait de j'ai pas l'impression que ce que je fais, ça va faire une vraie différence dans sa vie. Donc ça a une importance pour lui de me payer pour ça. Moi, j'utilise une distinction avec les gens, les freelances que j'accompagne souvent, c'est de dire rendez-vous compte que vous n'êtes pas une dépense pour vos clients, vous êtes un investissement. C'est-à-dire que quand ils mettent 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 3000 euros dans votre prestation, vous devez leur apporter une valeur perçue qui est au-delà de ça pour que ce soit un investissement. Du coup, travailler sur faire en sorte que votre service, peu importe ce que vous faites, il soit vraiment... il apporte vraiment beaucoup de valeur au-delà de ce que vous faites payer. Et ça, c'est un switch de relation à l'argent qui je trouve intéressant, de se dire en fait, je lui apporte plus que ce qu'il me donne. Et du coup, ça libère en général des trucs, et ça vient avec ça, c'est de se dire quand on est dans le bon métier, qu'on a les bonnes compétences et qu'on travaille vraiment sur ça, du coup, forcément, on attire mieux.
Dans ce que tu dis, il y a aussi autre chose. C'est vrai que la notion de pricer son service et de facturer à un client, quand on est indépendant, là, on touche vraiment au cœur de c'est quoi ma relation avec l'argent. Tu l'as dit, elle a peur de voler. Du coup, on peut être vraiment dans cette surcompensation de se dire je vais en faire beaucoup plus. Par exemple, on a défini un tarif, si on price au forfait, on a défini un tarif. Je vais en mettre beaucoup plus que ce que j'ai mis, comme ça il sera content. Ou alors, je vais facturer que 2 heures, alors j'en ai passé 3. Parce que y a cette idée, j'ai peur de voler l'autre, j'ai peur qu'on me prenne pour un voleur. Et ça, c'est pas moi qui le dis, je suis pas sociologue encore une fois, mais faut vraiment aller chercher dans les racines de son enfance, quel type de relation on a vu. Alors, il y a plein de choses à aller sur lesquelles on peut mettre un microscope et une loupe. Il y a par exemple comment ça se passait avec l'argent au sein de ma maison. Est-ce que l'argent était source de conflit entre mes parents, par exemple, ou entre mes frères et sœurs et mes parents? Est-ce que je voyais mes parents s'engueuler à propos de l'argent? Est-ce qu'on parlait d'argent à la maison? Il y a aussi l'histoire vraiment familiale au sens le plus large. Est-ce que, par exemple, il y a eu un lourd héritage? Il y a eu des discussions liées à un héritage dans ma famille? Est-ce que quelqu'un de ma famille s'est enrichi de manière malhonnête, ou on soupçonne qu'ils se sont enrichis de manière un peu malhonnête? Est-ce que l'argent a pu être la cause d'un divorce, d'une séparation, d'un malheur dans ma famille, une ruine par exemple, une entreprise qui n'a pas une banqueroute, une faillite, etc. Et en fait, ça peut nourrir énormément d'aujourd'hui nos relations avec l'argent, et notamment il y a des gens qui ont cette difficulté à garder l'argent. C'est-à-dire que je le génère, je le claque tout de suite. Parce que j'arrive pas à garder de l'argent, parce que ma relation à l'argent, c'est que l'argent, c'est sale, c'est dangereux, ça peut m'attirer des ennuis.
Les gens qui l'ont, c'est des mauvaises personnes, donc si je génère beaucoup d'argent, faut vite que je le dépense pour pas avoir
trop d'argent. Et en fait, essayer de comprendre quelle est ma relation à l'argent aujourd'hui? Est-ce que j'ai une facilité à en générer? Est-ce que j'ai une difficulté à en générer? Est-ce que je me sens systématiquement redevable? Est-ce que j'ai une insécurité vis-à-vis de l'argent, etc. Et ensuite, essayer d'aller comprendre, mais donc, qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de l'argent dans ma famille, au sens vraiment large, très large, pas juste mes parents, mes frères et sœurs. Et voir s'il peut y avoir un lien et essayer de, voilà, de, d'abandonner, c'est pas facile, mais d'abandonner ce passé, c'est du passé, et du coup de couper un peu ce cordon entre le passé et le présent sur sa relation. Ouais,
pour se permettre aussi d'aller plus loin et de se dire, tout ça, c'est, aujourd'hui, ça a peut-être un jour été à mon service, mais aujourd'hui, c'est devenu un frein au développement de mon activité.
Ouais.
Et j'ai besoin de couper pour pouvoir aller vers le mode de vie que j'ai envie de vivre, les projets que j'ai envie de mettre en place, les rêves.
Exactement.
Que j'ai,
arrêter avec le syndrome du voleur, arrêter avec le syndrome de l'imposteur, et commencer à se valoriser à son juste prix et ne pas avoir peur de, et tout simplement aussi ne pas avoir peur de parler d'argent avec son client.
Ce qui est un gros sujet.
Et c'est vrai, c'est
souvent
un,
on fait toute la présentation, on est là, on présente tout ce qu'on fait, et là il y a la dernière slide, les budgets, merde.
Mais c'est un peu comme quand dans un entretien d'embauche, parler de son salaire, de ses prétentions salariales, c'est énorme comme sujet. Ça fait appel à des ressorts psychologiques chez les gens qui peuvent être ultra gênants, ultra paralysants, ultra empêchants en fait. Et en fait, faut avoir conscience de ça, travailler dessus, essayer de le dépasser. Parce que ça peut vraiment changer votre vie, que changer ce regard que vous avez sur l'argent, quoi.
Moi, je trouve que il y a un autre truc intéressant que je fais avec les freelances que j'accompagne dans le programme, c'est souvent on voit que le regard qu'on a sur les chiffres, il est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui 300 euros c'est extrêmement cher, et des gens pour qui 300 euros c'est rien du tout.
Ouais.
Et j'adore les mettre dans des contextes où du coup tout d'un coup il y a des changements des bascules de comment on voit les choses. Mon pote JCK, quand il est passé sur le podcast, il a fait ça de manière merveilleuse quand il racontait la journée où il a failli devenir millionnaire en vendant sa startup. Ce qui n'est pas arrivé, dommage pour lui, mais du coup ça change le contexte dans lequel on est. Et un exercice que j'aime bien faire avec le freelance que j'accompagne, c'est de dire, imagine il y a un client qui vient te voir, il te dit, Delphine, j'ai 100 000 euros. C'est quoi le service que tu fais pour 100 000 euros sur 6 mois, par exemple? Et ça fait réfléchir complètement différemment. Grave. Déjà, je vois ton visage, là. Et juste de dire, OK, si je devais vendre un truc à 100 000 euros, qu'est-ce que ce serait? Et ça change complètement notre manière de voir ce qu'on fait, en fait. Et ça change la valeur qu'on met sur les actions qu'on porte, la valeur qu'on met sur nos compétences. Et rien que ce genre de choses, je trouve, OK, on dézoome un peu, on change de cadre. Ouais. Et quand on revient et qu'on se dit, bon, là, j'ai vendu un truc à 200 balles, peut-être que je devrais monter mes prix, quoi.
Ouais.
Donc ça, je trouve ça intéressant aussi, changer de cadre.
C'est la peur de ne pas générer de l'argent, parce que c'est sa survie en tant que freelance, la peur de ne pas générer de l'argent.
Ouais.
Donc, quelque part, on joue avec sa survie. Et on joue petit avec sa survie quand on se price...
Petit.
Quand on se price petit, en fait.
Rien que les exercices de se dire... qui est un truc que tu fais très bien dans ta méthode budgétaire, et on en va arriver dessus juste après, de se dire de combien j'ai besoin pour survivre, vivre confortablement, financer mes projets, etc. Rien que de prendre ce chiffre-là et de se dire, OK, j'ai besoin de 1500 euros par mois pour survivre. Et après, je regarde, OK, je vends une prestation sur une journée à 100 euros, ce qui veut dire que pour avoir mes 1500, il faut que je vende 15 jours dans le mois, ce qui veut dire qu'il faut que je vende à les 10 clients, et j'ai 3 rendez-vous par mois avec 3 clients différents, le modèle il peut pas fonctionner en fait.
Ouais.
Rien que de regarder ça, beaucoup de gens ne le font pas.
Après ça peut être dangereux de trop corréler aussi ce que tu vas pricer par rapport à ton niveau de vie.
Oui.
Moi j'ai déménagé, j'habite dans le nord maintenant, évidemment
la différence
elle est énorme. Et donc, si je disais j'ai besoin de 1000 euros, 1200 euros pour vivre,
et de pricer sur ça,
je me mets à pricer 100 euros ma journée, ça n'a aucun sens.
Je suis d'accord avec
ça. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà.
C'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir une fourchette de pour survivre, j'ai ça, pour financer tous mes projets et
disons,
tout l'argent que
disons,
je veux.
C'est la
ça.
Base, combien j'ai
exactement,
besoin pour survivre, effectivement. Il faut juste s'assurer, effectivement, que ce qu'on génère, ce soit
au minimum ça, et de viser, du coup, là-haut, effectivement, du coup, qui est, j'investis dans les projets que j'ai envie de mener, et toute cette partie, du coup, de gestion. Du coup, faisons la transition vers la gestion, qui est la deuxième partie. Il y a une phrase que tu m'as dite quand on préparait l'épisode, mmh. et je trouve résume super bien ce sujet de la gestion de l'argent et ta méthode budgétaire, c'est de dire, pour s'enrichir, il y a eu deux manières de le faire. Soit gagner plus d'argent, soit moins en dépenser. Mmh. Et effectivement, t'as un avis
soit
là-dessus.
Les deux.
Soit les deux, effectivement. Et les deux, c'est encore mieux. Et du coup, t'avais un avis sur ça que je trouvais très cool par rapport à cette phrase. Je veux bien que tu le repartages.
Alors, en fait, on a tendance naturellement à vouloir faire le deuxième, c'est-à-dire gagner plus ouais. pour s'enrichir. Le piège, quand on cherche que à gagner plus, c'est que on ne baisse pas notre niveau de dépense.
Ouais.
Et donc, gagner plus, on va jamais s'enrichir en faisant juste seulement que gagner plus.
Ouais.
On va continuer. Mettons qu'on épargne 10% de son revenu, par exemple. Demain, si je gagne plus, je lui épargnerai toujours que 10% de mon revenu. Effectivement, c'est 10% d'un plus gros gâteau.
Oui.
Donc, au lieu d'épargner 200 euros, bah, je vais peut-être épargner, je sais pas, 250 euros, etc. Ces 50 euros en plus que j'épargne, ils seront jamais game changing. C'est pas ces 50 euros en plus qui vont
faire une différence,
qui vont m'enrichir. Après, ça dépend ce qu'on met derrière le fait de s'enrichir. Est-ce que s'enrichir, c'est consommer plus?
Ouais.
Si pour vous, avoir accès à plus de consommation et consommer plus, c'est s'enrichir, bah oui, effectivement, vous n'allez pas être dans une tendance à réduire vos dépenses. Mais pour moi, le seul mouvement qui permet de s'enrichir, au sens où ça nous achète plus de liberté, c'est de réduire ses dépenses et d'augmenter ses revenus. Mais d'abord, de réduire ses dépenses.
Ouais.
Si on a pris l'habitude de réduire ses dépenses, d'être sur un niveau de vie un peu plus simple et on pourra élaborer très longtemps sur ce
ouais.
sujet du simple, ça fait que tout ce qu'on gagnera en plus, ce sera du bonus, ce sera de l'épargne qu'on pourra
ouais.
investir, qu'on pourra faire fructifier, qu'on pourra mettre dans des projets qui ont vraiment du sens pour nous
ouais.
Et qui deviennent vraiment là une mesure de la richesse. Et je refais le lien avec le bouquin dont on parlait tout à l'heure, Père riche, père pauvre, pour donner une définition de ce que c'est d'être riche et de s'enrichir qui donne à réfléchir et qui est assez intéressante. Robert Kiyosaki, dans son livre, explique, enfin pour lui, mesure la richesse en jours ou en temps, le temps pendant lequel vous pouvez vivre de manière autonome sans gagner de l'argent.
Ouais, donc si vous arrêtez de travailler aujourd'hui, pendant combien de jours vous pouvez continuer de vivre
Exactement.
Sans faire rentrer d'argent?
Exactement. Si vous avez 10 000 euros d'économie et que votre niveau de dépense par mois est de 1 000 euros, vous pouvez vivre 10 mois sans travailler avec vos 10 000 euros d'économie.
Ouais.
Ensuite, c'est à vous de dire si ces 10 mois sont suffisants ou pas pour votre épanouissement, pour considérer que vous êtes riche et libre.
Mmh.
Mais en tout cas, l'idée de mesurer la richesse en temps et non pas en argent, c'est quelque chose qui m'a fait énormément réfléchir. Et donc, pour en revenir au sujet de tout à l'heure, si vous faites que augmenter vos revenus mais que vous réduisez pas vos dépenses, vous augmentez pas donc l'argent que vous mettez de côté.
Ouais, et on n'augmente pas du coup le temps.
Et donc on n'augmente pas ce fameux temps, enfin ce que vous pouvez acheter avec cet argent en temps. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'enrichissement si on ne fait pas ce mouvement conjoint à la fois de réduire les dépenses et d'augmenter les revenus.
Pour illustrer, c'est clairement un gros sujet sur lequel je travaille depuis les derniers mois. Parce que je l'ai vu et observé sur mon propre comportement je développe mon activité de freelance, je vends mes services plus chers, je monte mon TGM, je vends des forfaits de plus en plus gros. Et donc, je me paye une salle de sport plus stylée, et je vais plus souvent au café, je me pose pas la question de, bon, allez, un troisième latte du jour à 5 euros, bon, je le prends, c'est pas grave. Et ça, quasiment tous les jours. Ce qui fait que, du coup, effectivement, t'as plus de revenus, certes, mais le pourcentage de dépenses, comme tu disais, bah, il augmente aussi, en fait. Et plus tu... Enfin, le pourcentage augmente pas, mais du coup, ce que tu dépenses augmente. Et du coup, clairement, j'ai juste vu, bah oui, ça rentre plus, mais ça ressort aussi plus. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant, ce point de vue-là, parce que tu te dis, bon, bah, si ça monte plus, c'est que tout ce que je gagne en plus, je le mets dans des choses qui ont vraiment du sens. Et le troisième latte de la journée, je pense pas qu'il ait vraiment du sens pour moi.
Il y a deux choses que j'ai envie de dire là-dessus. La première, moi, j'appelle ça la dépense-récompense.
Mmh.
C'est vraiment le syndrome du jeune actif
ouais.
Qui gagne ses salaires, qui est heureux, bah, souvent on a travaillé dur pour ça, surtout en tant qu'indépendant, quoi. On fait son propre salaire, on travaille dur, les premiers temps on a dû galérer pour trouver ses premiers clients, etc. On arrive à des niveaux de TGM qui sont satisfaisants, on commence à kiffer la life, et là on est dans un mécanisme de dépense-récompense, c'est-à-dire ouais, que, le fameux « je mérite bien ». Je mérite bien de me reposer ce soir, du coup je commande Deliveroo. Je mérite bien de rentrer en Uber, parce que j'ai fait une bonne journée et que je suis super fatiguée, alors que les métros sont encore ouverts. Je mérite bien. Et en fait, tous ces mérites bien cumulés, c'est ce que moi je vais appeler le gaspillage financier. Pourquoi ? Alors, je dis pas que Uber, Deliveroo, etc., c'est du gaspillage dans l'absolu.
Ouais.
Je porte pas de jugement de valeur sur la nature de vos dépenses. En revanche, je dis que c'est du gaspillage parce que tu viens exactement de le dire. Tu dis, en fait, ce troisième latté, j'en avais pas besoin.
Ouais.
Il me fait pas plus plaisir que ça.
Ouais.
Et en fait, on rentre dans la dépense que je fais machinalement, parce que je la mérite, parce que c'est un petit plaisir. Mais en fait, ça reste un petit plaisir. Ouais. Et c'est même un peu triste. Mais est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que ça augmente mon bien-être, mon bonheur, et est-ce que je ferais pas mieux
de
faire une autre dépense avec cet argent? Et on peut facilement en général répondre à ça oui, et le problème qui se pose juste après, c'est oui, mais qu'est-ce que je ferais de cet argent? Et là on rentre dans une réflexion, si on n'a pas eu, on va acheter ce latte, on va dépenser ce Uber, on va faire cette commande Amazon qui sert à rien, etc. Si on ne s'est pas posé les questions avant de qu'est-ce que je pourrais faire de mieux avec mon argent.
Ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est qu'on revient à une question que beaucoup de personnes qui se lancent en freelance se posent, c'est comment je peux donner davantage de sens à mon travail? Et là, du coup, la question de sens, elle revient sur comment je peux donner davantage de sens à chaque euro que je dépense. Ce qui fait que du coup, en fait, ce que je vois là-dedans, c'est que toutes les actions, que ce soit sur le développement de son activité, le marketing, la gestion de son argent, même les phrases qu'on dit, les personnes avec qui on interagit, on peut toujours se poser la question de est-ce que ça fait sens pour la vie que j'ai envie de me construire, de dépenser 5 balles dans ce latte, d'habiter à Paris dans un super bel appart, de dépenser de l'argent sur de la nourriture bio. Moi, par exemple, ça fait hyper sens pour moi, d'acheter que bio. Effectivement, le dernier latte de la journée, il fait pas sens par rapport à tout ça.
Ce qui est essentiel dans ce que tu dis, effectivement, dans la notion de faire sens de son argent, c'est que rendons-nous compte qu'on est capable de passer, de consacrer notre vie à travailler dur. En fait, on dépense une énergie incroyable à gagner cet argent.
Ouais.
Et on débranche notre cerveau quand il s'agit de le dépenser.
Ouais.
Et ça, ça devrait pas arriver parce que l'argent, on le dépense plus vite qu'on le gagne, et on devrait être particulièrement précautionneux à savoir ce qu'on veut en faire avec et à donner du sens à notre dépense, justement parce qu'on a fait un effort considérable pour le gagner et pour donner du sens à la façon dont on allait le gagner. Et c'est pas une question d'empreinte écologique de ton latte, c'est pas une question de... Mais c'est vraiment une question de... Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça augmente mon bonheur et ma satisfaction de faire ce genre de dépenses?
Et est-ce que ça va dans le sens de la vie que j'ai envie de vivre et de construire?
Exactement. En fait. Parce que ça, c'est essentiel pour les freelances en général. On ne devient pas freelance. Bon, j'allais dire on ne devient pas freelance par hasard, alors que
je suis devenue
freelance par hasard. mais en tout cas, aujourd'hui, je ne reste pas freelance par hasard.
Ouais.
On
le devient peut-être, mais on reste jamais freelance par exemple.
Ouais, exactement. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de freelance, beaucoup de gens qui t'écoutent, beaucoup d'auditeurs qui ont un projet de vie, qui ont ce projet de vie de devenir nomade, d'habiter au vert, tu vois, de choisir déjà leur lieu de vie, de travailler moins.
Ouais.
Par exemple, d'avoir une semaine de 3 ou 4 jours.
Ouais, un meilleur équilibre avec le perso.
Exactement. De pouvoir voir plus leurs enfants quand ils ont des enfants. On peut imaginer tout ce qu'on veut. De faire en sorte que monsieur ou madame arrête de travailler tôt ou prenne une retraite anticipée, etc. Enfin, peu importe. Puis il y a des tas de motifs et des tas de projets. Et en fait, il faut se rendre compte que ce fameux mécanisme de je le mérite bien, la dépense récompense, ouais. elle vient totalement mettre des grains de sable dans les rouages de cet objectif, quoi, qui pourrait probablement être réalisé j'en sais rien, 2, 3, 4 ans, et qui de fait sera peut-être réalisé en 10 ans, en 12 ans. Et ça, c'est. Ça, c'est, il faut se rendre compte de ça, quoi. Et ce qui vient au travers de ça, c'est le fait de se dire qu'on va devoir se priver. C'est-à-dire que si on dépense pas, demain, je fais plus 3 lattés par jour, je fais 1 latté par jour. Parce que c'est ma nouvelle résolution. Et après, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de me priver
T'as l'impression de t'enlever quelque chose, et je pense que ça revient à des fonctionnements psychologiques de base de l'être humain, c'est on déteste qu'on nous enlève quelque chose, et quand on s'enlève quelque chose à nous-mêmes, c'est encore pire, parce que du coup on se dit, j'ai les moyens, pourquoi je le fais, pourquoi je me prive,
pourquoi je me trime tous les jours si je peux pas m'offrir 3 lattés par jour,
exactement.
Quoi.
Et j'ai entendu cette phrase tellement de fois,
avec
les lattés, mais...
exactement, et en fait c'est une bataille constante entre mon moi de maintenant et mon moi du futur. Mon moi de maintenant, il veut un latté, il veut le troisième latté, il veut rentrer en Uber alors qu'il est 22h30. On va retomber sur tous les mêmes exemples. Alors que mon moi du futur, il veut prendre sa retraite à 40 ans. Mon moi du futur, il veut partir faire un tour du monde pendant un an. Mon moi du futur, il veut mettre son enfant dans une école Montessori. Mon moi du futur, il veut partir vivre, j'en sais rien, au Guatemala, peu importe. Mais c'est difficile. Si on n'y réfléchit pas, c'est juste difficile de faire cette connexion entre mon troisième latté m'éloigne de cet objectif. Parce que c'est mon troisième latté aujourd'hui, c'est mon troisième latté demain, c'est mon Uber d'après-demain, c'est mon Amazon d'après-après-demain, c'est le pantalon que j'ai acheté, que en fait j'en ai déjà plein dans mon placard. C'est le restaurant à 45€, alors que je peux manger pour 25. Le restaurant gastronomique, alors que je peux faire la bonne brasserie, etc. C'est tout accumulé, en fait. Et on se rend pas compte. On est dans la satisfaction de l'instant, du moment, et on pense pas à la satisfaction du moi du futur.
C'est une question intéressante, du coup, cette question du moi du futur. Il y a un truc qui est pas mal utilisé en coaching, qui est de se dire quelles sont les actions et les choses pour lesquelles mon moi du futur me remerciera. C'est-à-dire, s'imaginer, il y a Delphine dans 10 ans. Pourquoi dans 10 ans elle dira merci Delphine il y a 10 ans d'avoir fait ça, merci d'avoir quitté. Et on peut le faire sur le travail, encore une fois, merci d'avoir quitté ton job, de t'être lancé, merci d'avoir osé parler à ce client, merci d'avoir osé faire ce projet. Mais ça peut être aussi, du coup, merci de ne pas avoir acheté un latté par jour en plus pendant 10 ans. Ce qui fait, un latté c'est 5€, pendant 10 ans c'est énorme, quoi, les dépenses que ça engendre.
Merci d'avoir franchi le pas d'augmenter tes prix, merci d'avoir dit non à ce client pour une mission à moitié prix. On peut aller loin dans le moi du présent versus moi du futur. Et encore une fois, je trouve que ce qui est intéressant dans c'est tout le sens de la méthode que je mets en place, c'est à partir du moment où tu te poses les questions, tu sais exactement à quoi tu renonces quand tu fais une dépense dans le présent, à quoi tu renonces. Donc c'est faire ces arbitrages entre ces 5€ que je vais dépenser là, ces 5€ que je vais pas mettre dans autre chose. Et faire cet arbitrage-là, une fois que tu sais exactement à quoi tu renonces et que tu décides de faire cet arbitrage, tu n'es plus dans la privation. Parce que ces 5€ cumulés, donc c'est 25€ sur une semaine de 5 jours de travail, c'est 100€ dans le mois. Donc c'est 100€ du mois juste pour un troisième latté. Ça veut pas dire que tu arrêtes le latté, tu vois.
C'est 100€ dans le mois. Le plus.
Exactement, c'est 100€ dans le mois. Peut-être que je vais les mettre sur pas forcément pour moi d'ailleurs, mais je vais alimenter une cagnotte cadeau pour les 20 ans de mariage, les 30 ans de mariage de mes parents.
Peut-être je vais faire un don à une SE qui me parle vraiment et je me dis toujours
je vais faire un don, exactement, exactement. Et il y a plein d'études qui montrent que il y a une corrélation directe entre donner son argent, l'utiliser pour les autres et le bonheur et la satisfaction qu'on en retire. Mais en tout cas, moi, si je sais que c'est 100€ par mois je vais les consacrer à un cadeau pour les 30 ans de mariage de mes parents, je vais en faire don à une association, je vais alimenter un fonds pour l'éducation de mes enfants, ou je vais acheter du bitcoin, j'en sais rien, parce que c'est une façon de faire fructifier mon argent. Est-ce que je me sens toujours aussi privée d'avoir renoncé à mon troisième latté, sachant comment je vais utiliser cet argent autrement
dans le futur, quoi.
Moi, mon avis là-dessus, il est clair et net. Non, je ne ressens pas de privation, parce que l'idée de comment je vais dépenser mon argent autrement est une source de satisfaction bien plus grande pour moi.
Ouais.
Et c'est impossible, à mon sens, de faire cet exercice à la volée comme ça, si on s'est jamais posé.
Pour vraiment travailler.
Pour vraiment réfléchir à déjà c'est quoi mon projet de vie, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi mes gros projets de vie, et où est-ce que je veux mettre mon argent tous les jours. Et c'est la différence entre celui qui va mettre 200, 300, 400 euros de côté tous les mois de manière mécanique sur un compte sans savoir vraiment ce qu'il va en faire, à quoi ça va servir, etc. Sans savoir si c'est suffisant d'ailleurs pour couvrir tous les besoins des futurs mois.
Tout le temps en se disant ah, je mets pas assez de côté alors que c'est déjà 400 euros.
Ou à l'inverse, on estime ouais, c'est l'argent, déjà je mets 400 euros de côté et tout, et en fait ces 400 euros de côté là, ils couvrent peut-être pas tous les besoins du futur mois, quoi. Mais c'est toute la différence entre économiser au hasard, épargner au hasard et épargner en conscience, faire
de
des arbitrages,
quoi.
Exactement. Et on élimine toute source de privation. Ça a plein de bienfaits. Déjà, on élimine toutes les sources de privation. Et en plus, on commence réellement à ce que moi j'appelle aligner ses dépenses avec ses objectifs de vie. Et du coup, réaliser ses objectifs de vie plus vite et plus rapidement.
J'ai une approche, encore une fois, on en avait déjà parlé, mais j'ai envie de le partager aux auditeurs parce que je trouve que c'est hyper important. Dans cet arbitrage entre le mois d'aujourd'hui et le mois du futur, on pourrait presque se poser une question philosophique là-dessus et de se dire... est-ce que je suis épicurien et je ne vis que pour le présent parce que ça se trouve, il y a un bus qui va m'écraser quand je sors après cet enregistrement? Ou est-ce que je suis toujours dans la projection de me dire ce que je crée aujourd'hui, j'ai envie que ça me permette de fructifier, d'améliorer mon niveau de vie, de faire de plus en plus de projets, etc., etc., et d'aller sur ce truc plus de projection. J'ai adoré la phrase que tu m'as dit quand je t'avais posé cette question au téléphone la dernière fois, donc j'aime bien que tu la répètes si t'es OK. Sur... qu'est-ce que tu dirais aux épicuriens?
Alors, je suis plus sûre de ce que je t'ai dit au téléphone la dernière fois, mais est-ce que ça ressemble à quelque chose? Genre, est-ce qu'on a vraiment les moyens
d'être épicurien?
Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'être épicurien? Enfin, moi, tu vois, je suis cohérente.
Je trouve ça trop bien de se demander cette question. Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'être épicurien?
Ouais. Et je pense que je t'ai dit, ça, c'est une phrase, c'est une citation, il faut rendre à César ce qui appartient à César. En l'occurrence, ça appartient à un auteur qui s'appelle Pierre-Yves Maxwin, qui est québécois et qui fait ce super livre, c'est « En as-tu vraiment besoin sur la surconsommation ?» Et sur le fait du mois du présent et du mois du futur, il dit qu'en fait, ne pas épargner ou ne pas épargner assez, c'est voler les autres de manière préméditée. Parce qu'à un moment de sa vie, on aura besoin du coup de faire appel aux autres, même si c'est au moment de sa retraite, mais à l'assistance publique, à sa famille... Et du coup, si on néglige en fait, si on néglige notre futur nous, en mettant notamment pas assez d'argent de côté, en ayant cette attitude épicurienne de YOLO, je m'en fous, je vis au présent, machin, etc. C'est un espèce de vol prémédité, quoi.
C'est intéressant parce que la semaine dernière, j'avais un de mes clients, c'est une ESS, et il travaille beaucoup sur la mise en relation de personnes en situation de mobilité réduite avec ce qu'ils appellent des copilotes pour les accompagner dans leur trajet.
Ouais.
Et du coup, le sujet des aidants les implique pas mal. Enfin, ils travaillent beaucoup sur ça. Toutes ces personnes qui sont obligées d'arrêter de travailler, d'arrêter d'avoir des projets, etc. pour s'occuper de quelqu'un de leur famille qui n'a pas les moyens de se payer un soutien, qu'il soit médical ou quoi que ce soit. Et je trouve que ça rejoint exactement ce truc-là. J'ai pas envie d'être en train de taper sur les gens et dire « c'est de votre faute, vous n'avez pas épargné ». Mais c'est effectivement une réflexion intéressante de se dire ne pas épargner aujourd'hui, c'est potentiellement faire obliger dans le futur ma fille, mon enfant, mon frère, mes sœurs, mes parents à s'occuper de moi si jamais il se passe un truc. Si je me prends le bus en bas là et que j'ai pas les moyens de me payer ce qu'il faut pour ça, c'est d'autres personnes qui vont avoir ce poids et cette responsabilité entre guillemets. Effectivement, du coup, je trouve c'est presque notre responsabilité en tant que personne d'épargner pour notre futur.
Mais moi, je suis comme tout le monde, je suis pas un extraterrestre. Je comprends que penser à 30 ans, 40 ans, c'est dur. Vraiment, c'est dur. Il m'a fallu faire ces exercices simples et basiques de dire, OK, si je projette mon niveau d'épargne aujourd'hui dans 30 ans, ça donne quoi? Est-ce que ça compense... Alors, je suis incapable de calculer à quoi va ressembler ma retraite dans 30 ans, mais est-ce que j'ai l'impression que mon rythme d'épargne aujourd'hui va compenser les au moins 30% de perte de revenus quand je vais passer à la retraite?
Ouais.
Si ça compense pas, soit je m'assois sur mon niveau de vie, ok, donc on a travaillé toute sa vie, on a trimé pendant 40 ans pour du jour au lendemain se retrouver à perdre son niveau de vie et à être dans une espèce de renoncement, résignation, juste parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser la question avant, ok. Mais si je prends juste 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire des calculs qui sont assez simples, juste je place un peu d'argent à des taux d'intérêt, faut voir, et bon, ça c'est encore un autre sujet, mais est-ce que ça me rapporte le capital suffisant que j'ai envie d'avoir pour ma retraite, par exemple? Donc, c'est pas sorcier de faire ça, c'est hyper utile, c'est une prise de conscience. On va pas se mettre demain forcément à épargner 1000 euros par mois, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais au moins on sait et on va commencer à organiser progressivement, mais pas dans 10 ans, ces mécanismes de d'épargne et de stratégie à plus long terme. Une fois que ce sera mis en place, après on n'y pense plus, j'ai envie de dire quoi. Je sais que j'épargne tant pour préparer mes vieux jours, je sais que j'épargne tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça. Encore une fois, la liberté, c'est l'épargne. La liberté, c'est pas de claquer de l'argent. Parce que ça, c'est pas la liberté, c'est la dépendance. On est dépendant déjà à son travail. Plus on dépense, moins on a d'économie, plus on est dépendant de son travail, plus on va être vulnérable en cas d'accident. D'accident de parcours, je veux dire, de si on se retrouve au chômage, si on se retrouve à ne plus avoir de clients, si on se retrouve à avoir un gros décalage de facturation, etc. On va être dans une vulnérabilité. Ça, c'est tout sauf de la liberté, en fait.
C'est clair.
Donc, il faut comprendre que l'épargne, c'est la liberté. C'est pas une contrainte, c'est pas relou, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas les moyens d'être
épicurien.
Enfin, l'archétype de l'épicurien qui est en gros un panier percé, quoi.
Est-ce que, du coup, tu pourrais partager... Parce que là, on a été philosophique dans la réflexion. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des bons switches. Si tu avais une action concrète que les gens peuvent mettre en place directement à la fin de l'épisode pour se dire, OK, hyper important que je travaille sur cette relation que j'ai l'argent et comment je peux épargner et commencer à moins dépenser, c'est quoi l'action que tu leur recommanderais de prendre juste après l'écoute du podcast?
Moi, je trouve que ça aide beaucoup de faire la liste. La liste, c'est de lister l'intégralité de ce qu'on veut ou doit faire avec notre argent. Alors, c'est une liste qui n'est pas simple à faire.
Et qui prend peut-être plusieurs jours, du coup.
Et qui peut prendre plusieurs jours. Si on est en couple ou si on a une famille et des enfants, ça peut être bien de le faire à plusieurs. Ça peut être bien d'intégrer les enfants. Ça peut être un bon jeu à faire. Vous mettez autour d'une table un dimanche avec un bon chocolat chaud ou un bon thé, et puis vous essayez d'en faire un moment de plaisir avec une musique en fond. Et c'est une discussion que vous avez soit avec vous-même, soit avec votre partenaire, sur c'est quoi nos objectifs de vie, etc. Et dans cette liste, on s'arrête pas à les courses, mon abonnement à la salle de sport, mon assurance, mes impôts, en gros le quotidien, ce qu'on a tous les jours. Ça, c'est facile à mettre dans une liste. Il suffit de sortir notre relevé bancaire et on a les postes de dépenses. Voilà. Il faut pas s'arrêter à ça. Alors, dans la méthode, je vais loin à expliquer, mais je peux donner trois exemples, on va dire. Par exemple, prenez un calendrier.
Ouais.
Tu prends un calendrier, tu dis, OK, le mois de janvier, c'est le mois de quoi? Le mois de janvier, j'en sais rien. Alors, c'est pas le meilleur exemple, le mois de janvier.
Mois des résolutions, je vais m'inscrire à une salle de sport.
Exactement. C'est le mois de la galette, par exemple. Je vais peut-être être invité trois fois et devoir payer trois galettes à 15 balles. Bon, c'est un petit budget, mine de rien, tu vois. Je prends le mois de février, c'est le mois des vacances scolaires. Peut-être que je pars pas au ski, mais c'est un mois de vacances scolaires, j'ai des enfants. Qu'est-ce que je fais avec mes enfants pendant les vacances scolaires? Est-ce que je dois payer une nounou? Est-ce que je dois les envoyer chez papy mamie? Est-ce que je dois payer le centre aéré que je ne paye pas d'habitude, etc. Et en fait, le mois d'avril, c'est le mois où je fais ma balconnière, où je replante mes plantes dans le jardin et mon potager. Donc il y a un surplus de dépenses lié à au fait de refleurir mon balcon ou mon jardin.
Ou alors c'est le contrôle technique de la voiture qui arrive à ce moment-là.
Exactement. Et en fait, il y a des trucs qui sont très saisonniers, qui arrivent une ou deux fois par an. Et en prenant un calendrier, ça nous aide à sortir. On n'aurait jamais mis refleurir le jardin comme poste de dépense. On aurait peut-être mis éventuellement jardinage, mais c'est peut-être pas assez précis pour savoir ce qu'on va mettre derrière. Donc ça, c'est un premier exercice. Le deuxième, c'est prévoir les imprévus. L'imprévu, c'est statistique. L'imprévu, ça va arriver, c'est sûr. Il y a l'imprévu heureux, il y a l'imprévu moins heureux. C'est pas forcément une grosse tuile, mais l'imprévu, ça arrive, et ça arrive tous les mois. Donc, c'est complètement stupide de dire, c'est imprévu, donc on peut pas le prévoir. Je vais quand même pas le prévoir, puisque c'est imprévu. Bon, il y a plusieurs manières de gérer ça. On peut faire une grosse cagnotte, genre fonds d'urgence pour tous les imprévus. On peut aussi se dire, imprévu, ma voiture, j'ai beau avoir une assurance, etc. Il me faut un fonds de réparation.
Ou alors, pour les freelances, pour être concret dans leur cas, tel client me lâche. Ou je ne trouve pas de client sur ce mois-là.
Exactement. En tant que freelance, tu listes tes risques.
Ouais.
Probablement, des plus gros risques que tu as, c'est un risque de décalage de paiement, une facture qui ne tombe pas, ou un client qui te lâche, un gros trou, etc. Et tu alimentes un fonds spécial, en fait. Et tu sais que globalement, tu aurais besoin d'avoir 2000, 3000, 5000 euros en fait, de côté sur ton compte pro, sur ton compte perso, c'est toi qui vois, pour faire face à cet imprévu, par exemple. Mais pour un freelance, c'est aussi je pars au ski, je me casse le bras, je peux plus coder pendant X temps.
Est-ce que je peux
gérer ça avec une assurance, d'ailleurs, mais au moins je me suis posé la question. ou alors gère ça avec un fonds d'urgence. Je dois pouvoir assurer X semaines sans travailler. Ça peut être si on est une femme indépendante, la maternité. On sait que le régime de compensation est pas ok. Donc je prévois un fonds d'urgence, même si je prévois pas d'être enceinte tout de suite. Je suis pas enceinte ou j'ai pas d'enfant. Peut-être que j'ai un projet bébé à 1 an, 2 ans, et que pour alimenter cette cagnotte,
ça prend du temps, quoi.
Et rester avec mon enfant un peu plus que ce que la sécu me permet, je vais devoir mettre 2000, 3000, 4000 euros de côté, que je vais peut-être mettre un an et demi à accumuler, par exemple, tu vois. Et donc ça se prévoit. Et encore une fois, tu peux mettre un fonds d'urgence un peu fourre-tout. Je trouve que le danger de ce fonds d'urgence un peu fourre-tout, c'est
qu'on ne sait pas quand on pioche dedans et du coup on prend un peu toujours à droite à gauche.
Et si on pioche dedans, on ne sait pas ce que du coup on s'empêche de financer à côté, tu vois. Donc moi, par exemple, en tant que femme, je pourrais mettre 2000, 3000, 4000 euros de côté sur une future maternité et aussi 4000 euros de côté sur une problématique de paiement. Si je pioche 4000 dans mon pot, après je le reconstitue. Évidemment. Mais voilà, ça c'est pour les imprévus. Et le troisième sujet, c'est de financer ses projets et ses rêves. Ouais. Voilà, encore une fois. Mettre un poste de dépense sur clairement c'est quoi mon projet. Ça peut être partir faire le tour du monde, ça peut être m'offrir un mois de stage de plongée parce que je suis fan de plongée. Ça peut être partir à une super conférence de développeurs aux États-Unis. J'exagère un peu quand c'est des projets de vie, mais en tout cas projet de vie, ça peut être partir m'installer je ne sais pas où, arrêter de travailler tôt, on a déjà donné cet exemple, et d'alimenter mes cagnottes. Et à partir du moment où j'ai fait cette liste, là je peux savoir à quoi je renonce avec mon fameux latte.
C'est merveilleux.
Si j'ai pas cette liste, je sais pas.
C'est trop bien, parce que du coup je pense effectivement c'est ultra concret pour les gens qui écoutent, de se dire l'action que vous avez à faire après le podcast, c'est ça. Je voudrais venir du coup sur le dernier point. On a fait générer, on a fait gérer. Le dernier, c'est fructifier. On va devoir le faire assez rapidement parce que on est déjà en train de déborder. Je sais que c'est un sujet qui se passionne, donc c'est pas du tout étonnant. Pour toi, si aujourd'hui il y a un freelance qui se dit j'ai bien géré mon argent, j'ai des cagnottes de côté pour commencer à investir, pour faire fructifier mon argent, il y a une phrase que j'aime bien qui dit ne travaillez pas pour l'argent, faites travailler votre argent pour vous. Et c'est cette notion du coup d'investissement, de fructifier son argent. C'est quoi pour toi les postes d'investissement, même pour des tout petits budgets, que tu trouves intéressants pour un indépendant ?
La problématique de faire fructifier son argent n'est pas spécifique à l'indépendance, si ce n'est que il y a une problématique de l'indépendance, c'est le fameux plafond de verre, c'est de vendre son temps de travail. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse tendance à vouloir chercher des moyens de dépasser ce plafond de verre.
Ouais.
C'est-à-dire de plus dépendre de ses heures de travail et de son temps pour gagner sa vie. Et effectivement, là, on va tomber rapidement dans des objectifs, dans des mouvements qui passionnent assez les indépendants et les freelances, dont notamment l'objectif d'indépendance financière.
Ouais.
Le mouvement FIRE, Financially Independent Retire Early,
oui.
Donc financièrement indépendant, retraite...
Avancée, plutôt.
Ouais, avancée. Et en fait, un objectif de fruit, ça peut être un bon objectif pour se motiver à faire fructifier son argent et à le placer, c'est-à-dire se générer une forme de revenu passif, de rente, d'une manière ou d'une autre. Comment on fait ça? Quels sont les bons placements pour les indépendants? Il n'y a pas particulièrement le bon placement pour l'indépendant qui ne serait pas le même que le bon placement pour n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, qui serait salarié. Schématiquement, on peut rappeler quelques grands principes en termes d'investissement et de faire fructifier son argent. On peut quand même rappeler qu'il y a une corrélation assez directe entre le niveau de rendement qu'on peut attendre d'un produit financier ou d'un placement et le niveau de risque qu'on prend.
Oui.
Donc ça, c'est...
Plus on prend de risque, plus le rendement potentiel est grand.
Exactement. Deuxième principe, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier.
Oui.
Qu'on évite de mettre 80% de ses économies
dans un seul projet.
Dans du Bitcoin.
Oui.
C'est pas que je crois au Bitcoin, pas du tout. D'ailleurs, je
prépare un sujet crypto. Au cas où, quoi.
Exactement. C'est qu'on évite de mettre 80%. Peu importe son niveau d'aversion au risque, en fait, on peut kiffer le risque, kiffer le risque financier. Ça n'a pas de sens de mettre 80% de son épargne dans un seul type de placement financier. Là, vous allez vous mettre énormément en risque. Et donc après, il y a des familles, quoi. Il y a des familles de placements. Il y a le placement, on va dire, bon père de famille. C'est les livrets, hein, de manière générale. Cela, vous perdrez pas d'argent, mais vous en gagnerez pas beaucoup. Et globalement, c'est juste pour vous donner... Pour moi, c'est des placements bonne conscience, quoi.
Ouais.
Bon père de famille, bonne conscience. C'est juste que ça va suivre à peu près plus ou moins l'inflation. Vous n'allez pas perdre de l'argent, mais vous n'allez jamais genre faire fructifier votre argent ou vous enrichir avec des placements de père de famille.
Comme on pourrait faire sur un achat immobilier qu'on revendrait plus cher après, qui sont forcément du coup plus risqués. Mais...
Ouais. Alors du coup, si vous avez aujourd'hui une bonne partie de votre argent, là on parle d'argent perso, sur des placements de ce type-là, il serait bon de diversifier, quoi. Il serait bon de diversifier. Après, il y a un certain nombre de typologies de placements qui sont un peu plus intéressants. On arrive à 4, 5, 6. On va pas s'étendre sur ces placements. Et là, après, on va arriver à ce que moi, je commence à considérer comme haut rendement, 8, 9, 10. Il y a la bourse. Je suis pas une experte en bourse. Je prépare des épisodes là-dessus, mais je suis pas une experte en bourse. Il y a des placements qui peuvent être assez intéressants, qui sont le crowdfunding immobilier, je vous invite à aller regarder. Et pour les indépendants, le crowdlending.
Okay.
Donc c'est sur toutes les plateformes où on prête à des entreprises, à des taux d'intérêt qui peuvent être 4, 5, 6, 7, 7%. Donc là, on finance l'économie réelle. Et ensuite, si on veut aller explorer le beaucoup plus risqué, moi j'aime beaucoup l'immobilier, mais tout le monde
n'est pas. Cette place, ouais.
Et là, on peut. Alors, il y a l'immobilier de base, j'achète un appart à Paris, je fais de l'investissement locatif à Paris. Malheureusement, on est plutôt sur du 3-4% de rendement sur ce type d'immobilier. Il faut aller chercher des trucs un peu plus risqués sur faire de l'immeuble de rapport, c'est-à-dire j'achète un immeuble délabré dans des zones où le prix au mètre carré est bas. Je le retape, je fais des petits appartements, je le loue. Mmh. Ça, c'est la stratégie d'immeuble de rapport. Et ça dépasse les 8-9%. La location saisonnière, ça dépasse les 8-9-10%. Voilà, faut avoir envie de...
Ouais. C'est une sorte d'activité de côté qu'on doit mener en side project et qui peut potentiellement prendre pas mal de temps et d'investissement d'autres ressources que juste les ressources financières, quoi.
Ouais. Et je pense que c'est un principe, c'est de diversifier. Après, il y a des startups qui font des choses que j'ai pas encore testées, mais qui sont plutôt pas mal sur des produits plus classiques. Je pense à Yomoni, je pense à Nalo, qui sont sur le placement assurance vie, avec des choses qui sont un peu plus attractives que les banques traditionnelles, des conditions de rentrée dans ces produits-là et des rendements qui sont un peu plus attractifs. Donc, si vous avez envie d'aller creuser de ce côté-là.
Ouais, carrément. En tout cas, on a ouvert un peu les portes à la réflexion pour les gens de se dire. Si j'ai effectivement de l'argent de côté, qu'est-ce que je peux faire? Et on a exploré différentes voies, donc c'est trop
Mais je trouve que c'est intéressant de se poser vraiment la question, ça veut dire quoi pour moi faire fructifier mon argent? Est-ce que c'est juste qu'il ne dorme pas? Bon, ok. Est-ce que vraiment je me dis, j'ai envie que cet argent travaille pour moi, quoi. Aujourd'hui, j'investis X. Et dans 20 ans, potentiellement, j'ai X plus 30%, X fois 2, sans avoir rien fait, si ce n'est avoir assumé un risque.
Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, faire fructifier mon argent?
Exactement. Et en fait, entre moi et mon objectif, il y a une stratégie à construire. Et cette stratégie, elle ne fait pas l'économie de se former sur les sujets d'argent.
Ouais, bien sûr.
Et qu'on soit freelance ou pas, moi, évidemment, je conseille de se former. C'est vraiment un type de savoir qui peut changer votre vie.
C'est clair.
Moi, j'ai envie de me former sur plein de sujets. J'ai envie d'apprendre comment on fait de la vidéo. J'ai envie de me former en SEO parce que je suis pas la meilleure. J'ai envie de me former sur plein de sujets. Mais je sais que apprendre à gérer son argent, c'est un sujet qui peut changer votre vie.
Ouais.
Vraiment changer. Moi, j'ai considérablement réduit mon niveau de stress vis-à-vis de l'argent. Et je m'amuse à mettre en place ces stratégies à penser long terme, ça m'amuse, c'est pas rébarbatif, mais il y a une petite marche à franchir pour faire sauter le verrou du côté un peu chiant du truc. Et normalement ça peut vraiment devenir ça peut devenir fun, quoi. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu avec des stratégies à mettre en place,
et on s'amuse à voir ce qui se passe. J'ai perdu de l'argent, mince, bon bah du coup qu'est-ce que j'ai appris. C'est un peu comme développer son business au final.
Ouais, c'est un jeu. Je trouve que pour des freelances qui ont quand même un minimum de fibre entrepreneuriale, quand même, il y a vraiment un côté sympa qui peut devenir un jeu, quoi. Il faut accepter que ça peut devenir
un jeu.
Il faut accepter que ça peut être cool.
Ouais, c'est clair. On va arriver sur les deux dernières questions. Juste pour rebondir sur ça, j'ai envie de partager une petite phrase. Ça vient de profil grand entrepreneur américain qui crée beaucoup de contenu, etc., qui s'appelle Grant Cardone. Mais il dit une phrase que je trouve quand même assez intéressante, qui dit « Votre argent, il n'a pas de valeur jusqu'à ce que vous l'utilisiez. Tant que c'est juste un numéro sur un ordinateur dans une banque quelque part, en vrai, il ne sert à rien. Mais quand vous l'utilisez pour... Moi, personnellement, ce que je fais beaucoup avec mon argent, parce que je ne suis pas encore sur des grosses sommes, mais je l'investis sur la création de contenu. Donc par exemple, je vais payer un vidéaste pour venir filmer une de mes conférences, et du coup je peux réutiliser ce contenu là de plein de différentes manières. Pour moi, ça c'est comme ça que je fructifie mon argent, c'est à dire que je le fais travailler pour moi. Mes 200 euros sur mon compte ont moins de valeur qu'une conférence de 1 heure que je peux réutiliser de plein de différentes manières pour communiquer autour de ce que je fais. Et du coup, je trouve cette notion intéressante, et on va passer l'étaler dessus, mais du coup c'est une matière à réfléchir pour les gens qui écoutent. C'est votre argent, tant qu'il dort dans votre compte bancaire et que vous ne mettez pas au travail, entre guillemets, il a vraiment pas de valeur, parce que c'est juste un numéro quelque part. Et je pense qu'on est très attaché à cette notion de genre, presque comme si on avait des lingots d'or dans une banque quelque part, on a l'impression qu'on s'enrichit, alors qu'au final, c'est juste des numéros sur un compte. Donc juste pour remettre du contexte, je trouvais ça cool de dire ça.
Ouais.
Les deux dernières questions, du coup, pour arriver sur la fin de l'épisode, c'est si tu étais face à Delphine plus jeune, qui par hasard devient indépendante, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais avec toutes ces réflexions que tu as eues, notamment sur l'argent depuis ça?
Oui. J'en ai un. Delphine qui devient indépendante, elle aurait dû se préoccuper de faire certains investissements avant d'avoir le statut d'indépendant. Malheureusement, voilà, on peut que constater et subir un peu cette réalité. Quand on est indépendant, on est coupé du marché bancaire, notamment. On n'a plus accès au crédit, au moins pendant un temps. Au moins, alors, c'est, la règle, c'est 3 bilans. Évidemment, il y a plein d'exceptions. On peut se faire financer au bout du premier bilan, ça arrive. On peut se faire financer au bout du deuxième bilan.
J'ai plein d'amis qui ont des exemples sur le
cas. Ouais, ça dépend vraiment de sa situation. N'abandonnez pas, allez voir 50 banques s'il faut, n'abandonnez pas. Mais quand même, ça nous coupe du marché bancaire. Et en termes de... Pour se loger ou acheter sa résidence principale, certes, mais pour faire fructifier son argent, pouvoir emprunter à la banque pour notamment faire l'investissement locatif, etc., c'est quand même chouette.
Ouais.
Et ne pas avoir à attendre, c'est quand même chouette.
Ouais.
Et du coup,
je lui dirais d'y
j'aurais
aller
dit,
avant.
J'aurais dit à la Delphine en CDI, j'aurais dit, t'aurais dû profiter de ça pour faire tes premiers investissements.
Okay.
Et la banque, une fois que je suis indépendante et qu'elle voit que j'ai déjà fait des investissements, là, elle aurait aussi, c'est aussi un motif.
Ouais.
Supplémentaire qui joue en votre faveur quand vous êtes indépendant, c'est quand vous avez déjà investi par le passé, que vous avez un track record, etc. Si vous arrivez nulle part, vous avez rien, que vous vous lancez en freelance
et
que
vous percevoir le risque.
Vous avez peu de revenus, vous touchez probablement le chômage, ce qui est génial, mais du coup pour la banque vous êtes un chômeur en vrai.
Ouais.
Vous êtes un chômeur qui s'amuse à générer du revenu à côté, tu vois.
Du coup, ce qui est intéressant, c'est que la banque elle-même est en train de réfléchir à comment est-ce que j'investis mon argent sur cette personne et son projet. Ce qui est du coup la même réflexion que nous on a de se dire bah, je vais placer mon argent, mais la banque elle a la même réflexion quoi.
Exactement. Et on peut critiquer ce modèle pendant des heures. Il est là et il existe.
Ouais.
Donc malheureusement on n'a que ses yeux pour pleurer. Alors ça retarde mes projets. Enfin, personnellement moi ça retarde mes projets.
Ouais.
J'aurais préféré pouvoir les faire maintenant. C'est pas grave. Ça les retarde.
Jouer avec les règles du jeu.
En tout cas, clairement, il y a tout ce que je vous ai dit avant, mais ouais, j'avais envie de terminer sur ce truc-là.
Et la dernière question, du coup, qui est cette fois-ci pas adressée à la Delphine du passé ni la Delphine du futur, mais aux auditeurs, c'est... J'aime bien finir sur une question qui va les faire réfléchir, dont on leur a donné des actions, on va leur donner une question aussi maintenant. Si t'as une question à leur poser pour qu'ils réfléchissent sur leur mode de vie, leur activité de freelance... tout ce qui va autour du fait d'être indépendant, c'est quoi la question que tu as envie de leur poser?
Je pense que c'est un peu une série de questions autour de est-ce que tu as les moyens de ce troisième laté? Est-ce que tu as les moyens de négliger ton futur? Est-ce que tu as les moyens de négliger ton épargne? Est-ce que tu as les moyens de procrastiner? Est-ce que tu as les moyens de remettre ad vitam aeternam les questions d'argent quoi? Est-ce que tu as les moyens de les mettre même carrément de côté dans ta tête quoi? Et pose-toi, ouais, vraiment quoi, pose.
De manière honnête et pas fuir la question.
Ouais, et vous avez le droit de... Moi, le nombre de fois où j'ai procrastiné dans ma vie, vous avez le droit de vous dire, ouais, là, clairement, c'est un sujet, j'ai pas envie. Et repense à ce que je viens de te dire et dis, mais est-ce que j'ai les moyens de ne pas avoir envie quoi? Est-ce que j'ai les moyens de ne pas avoir envie de m'occuper de ces choses-là?
Trop bien.
Voilà.
Bonne question de fin. Merci beaucoup Delphine pour cet
merci
échange.
À toi.
Je suis trop content. Où est-ce que les gens peuvent venir te suivre, aller plus loin sur la question de l'argent parce qu'il y a un super podcast toutes les semaines?
Ouais. Moi aussi j'ai un podcast, ça s'appelle Budget Chéri. Donc vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site budget-chéri.com.
Je mettrai tous les liens dans la description.
Voilà.
Et si on veut t'écrire pour discuter avec toi directement.
Vous pouvez m'écrire à delphine@budget-chéri.com.
Trop bien.
Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Honnêtement, je crois que je réponds à tous les messages. Donc,
cool.
Voilà.
Ben, espérons qu'il y en ait des milliers et comme ça tu pourras plus répondre à tous.
Non, je rigole.
Elle répond à tous les messages même si vous êtes des milliers, allez-y.
Ouais. Ben, écoute, c'est des problèmes de riches comme on dit.
Super mot pour terminer l'épisode. Merci Delphine et à très vite.
Merci beaucoup.
Ciao.
J'espère que cet épisode t'a plu. Personnellement, même en le réécoutant pour préparer la sortie de cet épisode, j'ai repris des belles claques de savoir. Franchement, y a plein de choses à travailler dans cet épisode. Du coup, ce que je t'invite à faire, c'est de programmer dès maintenant dans ton calendrier une deuxième écoute, plus active, avec un carnet, si tu l'as pas fait avec un carnet cette fois-ci, ou en tout cas en mettant pause, en passant à l'action, en écrivant. Enfin bref, utilise cet épisode comme un vrai outil de travail sur ce sujet de l'argent. Donc prends ton calendrier et programme ça dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour appliquer concrètement tout ce qu'on y partage et tous les échanges qu'on a eu avec Delphine pendant cette heure d'épisode de podcast. Pour retrouver tous les liens qui sont mentionnés dans cet épisode, vous pouvez les retrouver sur la page dédiée à cet épisode sur mon site thomasburbidge.com. Et maintenant, je vous laisse ressasser tout ça, faire mûrir vos réflexions. Et de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.